Je suppose que tu avais préparé la chute.
Ça en a tout l'air.
Donc, enfin, je sais pas, vous avez sûrement plein de trucs à dire. Donc, rétroactivement, si je suppose que tu avais préparé la chute, ce que tu t'en fais, j'en arrive à une interprétation de tout ton propos qui est de dire que ce dont tu nous as parlé n'est pas une démonstration, n'est pas ce que ça paraît être, mais est un travail très très minutieux, précis et au fond très conscient pour effectivement à la fois créer des écarts et les combler en même temps.
On pourrait dire ça, oui. Ah, très bien.
Ce qui est étonnant dans cette perspective, c'est le succès de l'entreprise.
Un certain succès, oui, un certain succès.
Quand même, on parle encore de. Voilà, on parle depuis une heure de ces quelques pages qui ont été écrites il y a pas loin de 4 siècles. Et on y attache, enfin, en tout cas, un certain nombre d'entre nous ici, on y attache beaucoup de prix, donc. Le côté savant, en fait.
Oui.
Est-ce qu'il y a des... Vous voulez un micro, peut-être? Vous avez-vous un micro?
Ça pue beaucoup sur l'idée de l'existence
sur
que Dieu,
oui.
Qu'on peut avoir une idée car existante de Dieu. En fait, et j'ai cru comprendre qu'il explique les méditations comme à partir de cette idée distante, claire et distante de Dieu, mm-hmm. comme que Descartes essaie de démontrer l'existence de Dieu. Bon, avec plein de subtilités que je passe. Et parce que vous, il me semble que vous avez un peu mis l'accent sur cette nécessité chez Descartes de l'existence d'un Dieu. Et en fait, je voulais aussi donc citer Vincent Caro, qui, en fait, qui lui explique, une des choses qu'il explique, c'est que Pascal, dans les pensées, une sorte de réponse aux méditations de Descartes. Et en fait, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus de cette réponse un peu de Pascal à Descartes dans cette perspective que je viens d'indiquer, voilà, rapidement. Merci.
Il y a deux choses à dire. Premièrement, le Dieu de Descartes aux yeux de Pascal est singulièrement impersonnel. C'est un Dieu qui, certes, nous a tout donné, toutes nos facultés, qui a mis notre âme dans notre corps, etc. etc. Mais il n'y a pas de rapport personnel à ce Dieu qui est infini, hein, et infiniment transcendant. Et Descartes consacre à l'amour de Dieu dans la lettre à Chanu du 1er février 1647. J'ai fait une petite édition. Ce texte, à mon sens, est un peu un morceau de rhétorique, enfin, de rhétorique philosophique. Il y a quelque chose qui ne sonne pas, qui rend un son un peu étrange dans la manière dont Descartes parle de l'amour de Dieu, des conditions dans lesquelles Dieu peut être aimé. L'amour de Dieu chez Descartes reste une chose problématique. Donc ce Dieu Pascal, c'est un Dieu de philosophe, c'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est pas un Dieu qu'on craint à proprement parler, c'est pas un Dieu qu'on aime à proprement parler non plus. Deuxièmement, les preuves de Descartes métaphysiques, bien que le fragment des pensées, ou les quelques fragments des pensées qui concernent les preuves métaphysiques de Dieu ne nomment pas directement Descartes, on le voit quand même au premier plan, et ces preuves métaphysiques ne sont pas propres à convaincre, à persuader, ni à convertir, encore moins à convertir, les esprits. Elles impressionnent un moment, et puis le moment d'après, dit Pascal, on les a oubliés, ou on craint de s'être trompé, et en réalité, rien n'est changé aux habitudes de l'esprit. Dieu doit être non pas prouvé, mais éprouvé. Hein, et les preuves métaphysiques sont sans force. Il faut la grâce divine pour attirer à Dieu. Donc sur ces deux plans, l'opposition entre les deux penseurs est en effet bien marquée. Le Dieu de Descartes reste un vrai problème. Alors, on pourrait prolonger avec la question de savoir si la manière dont Descartes qualifie Dieu, c'est un problème posé par mon collègue et ami Jean-Luc Marion. Est-ce que les noms que Descartes attribue à Dieu sont cohérents entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas une essentielle incohérence de la pensée de Descartes s'agissant de Dieu? Est-ce que infini et souverainement parfait, ça va vraiment ensemble? Vous voyez, infini dans la troisième méditation, souverainement parfait dans la cinquième. Donc on peut discuter assez longuement à ce sujet, mais l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est un Dieu à la fois archi-protecteur et tel que nous ne pouvons pas à proprement parler avoir de rapport à lui. Il faut compter évidemment aussi ce qui fait le scandale de Pascal aussi. Alors, outre que Descartes ne fait donner à Dieu qu'une chiquenaude dans la création du monde et ensuite le monde va tout seul, il y a l'effacement de la figure du Christ dans les écrits cartésiens est pratiquement absente. On voit bien que le Christ n'est pas un objet pour le philosophe. Donc il n'y a pas dans le texte de Descartes sur l'amour de Dieu, il n'y a pas de médiateur. Et même il y a un texte encore plus scandaleux, c'est-à-dire la lettre à Chanu suivante, celle du 6 juin 1647, où Descartes explique que oui, certes, l'incarnation, c'est une grande chose, mais que rien ne nous assure que Dieu n'ait pas fait d'aussi grands bienfaits à d'autres. À d'autres créatures dans l'univers. Hein. Donc, le monde n'est pas fait pour l'homme. Enfin, bon, on pourrait prolonger.
Oui, je voulais vous poser juste une question. Pourquoi vous parlez de besoin de protection? Parce que, si j'ai bien suivi tout l'axe de votre exposé, Ça consiste à nous expliquer que la dimension de la dramaturgie, il ne faut pas trop en être dupe. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de... En réalité, bon. Et à la fin, vous arrivez quand même sur quelque chose qui, dans son expression même, besoin de protection, oui. Évoque la créature.
Oui.
Pourquoi qualifier de besoin de protection ce que Descartes nous dit de cette solidarité entre ce qu'il dit de l'être humain, disons, et le corrélat divin, en quelque sorte, qu'il convoque? Qu'est-ce qui vous pousse à le formuler ainsi?
Alors, ce sur quoi j'ai mis l'accent, sur la dramaturgie, vise à écarter une espèce d'incertitude, enfin l'idée que Descartes serait le sujet d'une interrogation taraudante,
oui,
vous voyez, bon. Mais en même temps, s'il n'est pas le sujet d'une interrogation taraudante, c'est qu'il y a une espèce d'évidence philosophique qu'il ne s'agit pas de remettre en question. Et cette évidence remplit quand même un besoin. Je crois qu'il faut prendre au sérieux ce passage de la première méditation où Descartes explique que s'il n'y a pas de Dieu tout-puissant, alors bah, je ne suis assuré de rien. Et ce qui se passe ici sur le plan de la connaissance a son équivalent tout de même sur le plan moral, enfin, conduite de la vie, perspective, etc. J'ai besoin, pour que mon esprit soit en repos, de savoir qu'un Dieu m'a donné mes facultés à instituer les vérités auxquelles j'ai rapport, et donc tant que j'use bien de mon esprit, il n'y a aucun problème. Et j'ai quand même besoin de penser que tout le cours des choses est qu'on le relève de la providence divine, avec évidemment l'idée, alors théologiquement on peut prêter à discussion, que bah, si j'use bien de mes facultés, je n'ai pas de souci à le faire quant à la vie future. Pas de souci. Là aussi, on pourrait creuser le contraste avec Pascal, notamment le Pascal des Écrits sur la grâce, avec le thème du délaissement. Il y a des justes qui tombent. Rien n'assure, rien ne m'assure, moi qui prie, que je vais pouvoir continuer, que je vais persévérer dans l'instant d'après, que je vais persévérer tout court, parce que d'un moment à l'autre, il peut y avoir, Dieu peut se retirer d'un instant à l'autre. Dieu peut m'abandonner d'un instant à l'autre. Et là, cette anxiété est évidemment absolument non cartésien. Mais il faut un Dieu, si abstrait soit-il, pour que nous soyons tranquilles et assurer que ce qui est fait, que ce que nous faisons est fait.
Comment résoudre cette impasse d'avoir un Dieu protecteur, un Dieu trompeur? J'avais surtout une autre question, c'est que vous avez parlé du jeu chez Descartes, et c'est là où j'ai aussi fait l'association avec Pascal, parce que Lacan dit que le pari de Pascal, c'est le pari sur c'est la question du jeu qui est en cause. Alors, ma troisième élément, mais ils ont peut-être un lien, c'est tout ce que Descartes essaie de développer sur l'âme et le corps. Alors là, c'est surtout la question du jeu, excusez-moi de faire trois questions pour une. C'est cette question du jeu, est-ce que c'est la même question chez Pascal et chez Descartes?
Du jeu.
J-E.
J-E, oui, j'entends bien. Non, parce que dans Paris, il y a peut-être un peu de jeu. Oui.
Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle parie Descartes? Non, puisqu'il est dans la certitude.
Non.
Non.
Non, non, il n'y a pas de pari.
Il n'y a pas de pari, puisque la certitude est le doute. C'est quand même...
Oui, non, il n'y a pas de pari.
Il n'y a pas de pari.
Non, il n'y a pas de pari. Et alors, je ne sais pas, la question du je, comment vous l'impliquez précisément ici. Bon,
c'est une division, le jeu.
Il y a toute la question de savoir comment se définit le jeu ou l'ego cartésien par rapport à l'union de l'âme et du corps. Bon. L'ego et l'esprit, c'est exactement la même chose, etc. Est-ce que l'ego constitutivement a besoin d'un corps? Je crois qu'il a besoin d'un corps. Sur la question précédente, bon, mais c'est tout un... moi, je ne crois pas. Enfin, autant il y a une alternative, une espèce d'alternative entre un univers voué au hasard et un univers. Réglé par Dieu, hein, et Descartes affirme la deuxième hypothèse contre la première qui est assez répandue à son époque, parce que les libertins, malgré tout, enfin, il y a ce néo-épicurisme. Le hasard de son rôle, même si certaines précautions étant sont prises, et si les libertins se défendent d'être infidèles à la religion chrétienne, malgré tout, autant il y a une vraie différence d'option philosophique ici, autant le dieu trompeur. C'est même pas un fantôme, c'est un argument fort, évidemment, qui m'oblige à me mettre en quête de la vraie notion de Dieu, hein, et d'un argument définitif pour établir l'existence de ce Dieu dont j'ai la vraie notion, mais est-ce que Descartes prend au sérieux véritablement cette idée que Dieu pourrait me tromper en toute chose, je crois que la réponse est catégoriquement négative.
Parce qu'il y a quand même une division entre le Dieu trompeur et le Dieu protecteur.
Ah ben, c'est deux figures antagoniques, mais la question c'est de savoir si Descartes accorde à la première un minimum de plausibilité.
Et c'est une ambivalence.
La réponse est non, alors on aura affaire avec Malebranche ou Spinoza, des auteurs qui diront, mais de toute façon, ça ne se discute pas. Dès qu'on pense à Dieu, on voit qu'il existe. Mais bon, il y a Descartes retarde un peu l'évidence à cet égard, mais il y a quand même une espèce d'évidence.
Jacques, il y a une question là-bas avant. Il y a ça là-bas ici,
oui.
Qui est le micro.
Oui. Vous avez évoqué à un moment donné un vertige intellectuel.
Oui.
Et j'ai été frappée par l'expression. Vous avez dit que ce vertige intellectuel ne peut être fin.
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, parce que ça semble être le point de position qui contrebalance toute la dramatisation.
Vous avez raison, il y a un peu de difficulté. Disons que il y a un vertige dans la mesure où les raisons de douter de la première méditation et de manière de plus en plus graduelle enfin, selon une certaine gradation, crée un vertige dans la mesure où il n'y a pas immédiatement le moyen de le réfuter. Et donc il y a un effet d'ébranlement qui s'applique particulièrement à une certitude naïve des principes, de ce qui touche au, non pas simplement à telle et telle croyance, mais aux maximes qui règlent nos croyances, parce que c'est ça que Descartes appelle les principes, en disant « attaquer d'abord aux principes ». Mais, bon, la question un peu abyssale, c'est celle de savoir si Descartes lui-même a été le sujet de ce vertige. Et ça se perd dans la nuit, cette affaire-là. Parce que effectivement, au moment où il rédige les méditations, il a déjà plusieurs strates de rédaction métaphysique derrière lui. Il faudrait savoir ce qu'a été la première. Est-ce que dans le traité de métaphysique de 1629, on commençait par le doute? Rien ne nous l'indique. Il dit simplement, dans les lettres à Mersenne du printemps 1630, j'ai consacré un petit traité à l'existence de Dieu et à l'immatérialité de l'âme humaine, parce que je considère qu'il faut commencer par là, connaître Dieu et se connaître soi-même, mais il n'y a pas d'indication d'un moment de doute. Donc, comment est-ce qu'il en est venu à élaborer ses raisons de douter en reprenant un matériau partie classique? Nous ne savons pas, et nous ne savons pas donc quelle expérience ça a représenté pour lui. Mais le fait est que il y a un effet de vertige aménagé pour le lecteur, et que il est difficile que l'auteur aménage ce vertige sans en avoir une espèce d'expérience lui-même. Mais ce qui complique les choses, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer, c'est qu'il y a une espèce de double conscience à cet égard. En tout cas, il n'y a pas une espèce d'engagement de premier degré dans une grande aventure métaphysique où tout d'un coup on serait terriblement embarrassé. Non. Mais c'est très difficile à décrire. D'où le fait d'ailleurs que Descartes ne répond pas directement de manière satisfaisante au père Bourdin qui lui dit « Vous racontez n'importe quoi en substance, vous dites qu'il faut tenir pour faux que 3 plus 2 égale 5, mais alors où est-ce qu'on est là ?»
Oui, ma question c'est que j'ai ressenti dans votre exposé une grande distance entre le vécu et le raisonnement de Descartes, et je voulais savoir si vous accepteriez de dire que tout ce montage à partir d'un axiome qui est la providence existe, Dieu est bon et me protège, ce ne serait qu'une immense démonstration par l'absurde.
Par l'absurde.
Comment, une démonstration mathématique par l'absurde?
Je sais pas si, à proprement parler, les méditations procèdent à une démonstration par l'absurde sur le mode « si tel est tel cas, alors on arriverait à ceci qui ». Non. Je ne crois pas. À cet égard, justement, c'est une forme pascalienne, mais qui n'est pas précisément la forme cartésienne. Mais, oui, il y a le maniement de fiction, de contrefactuel, comme on dit aujourd'hui, à partir de quoi, effectivement, s'établit la conscience d'une nécessité rigoureuse. J'oublie un peu, excusez-moi, le point de départ de votre question, donc l'écart entre le
qu'on part d'un axiome, oui, et on construit une immense dramatisation, oui, pour démontrer par l'absurde la vérité, oui, que donc un Dieu me protège.
Je serais un peu réservé par rapport à cette idée d'un axiome. Parce que à la suite des réponses aux secondes objections, en accédant à une demande des objecteurs, Descartes a essayé de mettre par ordre géométrique, ce que Spinoza reprendra plus tard, les raisons qui prouvent l'existence de Dieu, et les axiomes ne sont pas ceux-là. Non. Donc les axiomes ou notions communes, ce qu'il faut absolument tenir pour établi, qui n'est même pas postulat ou demande, mais chose absolument établie, ce n'est pas exactement cela. Donc, en revanche, oui, Descartes a une notion d'emblée extrêmement claire du point où il veut en arriver, et qui concerne à la fois l'existence et le rôle de Dieu, mais aussi la structure de la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le monde physique, qu'est-ce que c'est que mon âme, et qu'est-ce que c'est que le rapport entre mon âme et mon corps. Ça, c'est clair dans son esprit dès le départ, c'est sûr. Donc, effectivement, il y a une espèce de construction.
Bernard. Pour revenir sur votre phrase conclusive que vous nous avez offerte à travers Frédéric, peut-être un peu pour nous faire plaisir, je voulais savoir où est-ce que vous placez la suture.
Ah, ça c'est une question qui
n'est pas
sortie.
Ah voilà. Non, sûrement pas. Est-ce que c'est entre le doute radical et la garantie? Et à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit, par la métaphysique, de fonder la science? Ou bien est-ce que c'est entre le « je pense » et le « je suis », entre la pensée et l'être? Et alors là, est-ce que, non, on ne tombe pas sous le coup des critiques, disons, de la filiation existentialiste de Pascal?
L'être du sujet est la suture d'un manque. Je pense que la suture... Je crois que j'ai su à peu près ce que c'était. Mais j'ai un peu oublié. Mais je crois que la suture est dans le rapport du fini et de l'infini, tel qu'il est institué dans la troisième méditation. L'idée que, d'ailleurs, je ne pourrais même pas me définir moi-même comme un être fini avec mes facultés déterminées, si je n'avais l'idée de l'infini, si l'infini, s'il n'y avait pas cette antériorité de l'infini sur le fond duquel je me définis. Et moi qui suis fini, j'aurais beau me perfectionner autant que je pourrais, je n'atteindrai jamais évidemment les perfections infinies que je me représente. Donc je m'avance un peu à l'aveugle parce que je vous dis cette notion, la formule ne peut pas manquer d'être dans l'interprétation de la fin. Comme ça, un peu à tâtons, à l'aveugle, intuitivement, je dirais que l'être du sujet, alors évidemment, où est le manque? Vous voyez, je tâtonne vraiment. Mais c'est quand même de ce côté-là que j'irai, donc pardon si je ne vous réponds pas tout à fait.
Ouais, je pense que le manque, il est dans tous ces écarts que tu as mis en valeur, oui, tout au long de ton exposé, même que tu l'as appelé autrement, dramaturgie, fiction,
oui,
y compris entre les versions connues, inconnues. Enfin,
oui,
c'est des dispositifs
oui.
De.
On pourrait dire ça aussi.
L'organisation du monde.
Oui, il y a un état initial qui s'agit de. Enfin, il s'agit de suturer le manque par les méditations métaphysiques elles-mêmes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et en particulier en tant qu'elles assurent la relation à l'infini, sur le fond de laquelle l'existence finie se déploie, sans dramatisation excessive d'ailleurs.
C'est plutôt la limite,
ça. Ça c'est encore une autre imagination, la limite. Il faut effectivement que l'infini soit là, que l'infini existe pour que le fini prenne sa figure, ça c'est sûr, et s'accomplisse.
L'inverse n'est pas vrai.
Pardon ?
L'inverse n'est pas vrai.
L'inverse, vous voulez dire ?
Qu'on a accès à l'infini par le fini, par l'être fini. Et l'être fini peut avoir une idée de l'être infini qui est Dieu.
Oui.
Il m'a semblé comprendre que c'était là, c'est pas petit.
C'est-à-dire, il faut que. Je n'aurais pas. L'argument cartésien, c'est que je n'aurais pas l'idée de l'être infini si elle ne m'était donnée par cet être lui-même.
Oui.
Donc c'est pas je en un sens je peux la tirer de moi-même parce qu'elle est au fond de moi comme une idée innée, mais en un autre sens je ne la forge pas moi-même. C'est pas parce que je la forme, c'est-à-dire au sens où je l'actualise ou que je la forge comme quelque chose que je constituerais purement à partir de moi-même, ou à partir de ce que j'ai. Oui, dans ce sens-là, il n'y a pas de constitution de l'infini à partir du fini.
Bon. Pour ceux qui auraient soif, ce qui pourrait arriver,
peut-être tomber à l'eau.